MIPIM 2021, Time to Reconnect. Le premier événement permettant à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver et d'échanger à nouveau. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.
Salut les amis, eh bien écoutez, on est toujours ici au Palais des Festivals de Cannes, je vous raconte pas, hein, c'est une chaleur mais de fou, je suis littéralement en nage et si j'ai la possibilité de le faire, j'irai bien prendre un bon bain dans la mer, voilà. Du monde, alors du monde versus MIPIM recorrigé ici, mais plutôt Cali, puisqu'on rencontre des personnes avec qui finalement on a un peu plus de temps parce qu'il y a un peu moins de monde, et donc je trouve ça super. Une entreprise qu'on connaît bien puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir sur le plateau pour les speed dating, la 8e édition des speed dating d'Arkea, Sophie Rousseau qui travaille chez Redman, et on a le cofondateur de Redman sur le plateau qui s'appelle Nicolas Ponson.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, très bon MIPIM.
Alors, Redman, on a l'impression que Redman cultive, allez, je vais faire mon journaliste, une certaine singularité dans le paysage immobilier français. On peut le dire ou pas?
On peut.
Voilà.
On peut.
Singularité parce que je crois savoir que c'est la seule entreprise qui est qualifiée, qui a le label Bicorp. J'aimerais bien que vous nous réexpliquiez ce que ça veut dire Bicorp, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et en même temps, vous êtes devenu une entreprise à mission.
Exact.
Pourquoi?
En fait, je ne vais pas commencer par ça. Parce qu'en fait, ça, c'est la fin de l'histoire, le Bicorp entreprise à mission. Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a deux, on a obtenu deux labels de l'AFNOR, c'est le label diversité et le label égalité. Voilà. Donc Bicorp entreprise à mission, label égalité, label diversité. Ça fait un peu général avec toutes
ça
les...
Ça, quel âge Redman?
Voilà. Redman, c'est une quinzaine d'années. 14. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Ce qui me semble être beaucoup plus intéressant, c'est d'expliquer comment on en est arrivé là et quelle était la démarche. En fait, il y a 15 ans, quand on a créé Redman, on est parti tout feu tout flamme avec Mathias, convaincu du fait qu'on pouvait tout changer, même si on n'avait pas un paquet de sous énorme, on avait une capacité à créer des valeurs qui était colossale. C'est ce qu'on a fait, en créant de la valeur, on est allé chercher du financement et c'est parti très vite. On a pu réaliser assez rapidement des opérations assez visibles, significatives, je parle de Station F, et des projets comme celui-là.
Station F, plutôt emblématique. Hein.
Plutôt emblématique, des beaux projets. Pour autant, après une petite dizaine d'années, donc il y a 4-5 ans, on s'est posé la question avec Mathias. On s'est dit, voilà, on est hyper booming, ça fonctionne bien, ça avance. Pour autant, est-ce qu'on repart pour 10 ans? Et si oui, dans quelles conditions? Et c'est là qu'est, en fait, a émergé une conscience qu'on avait, mais qui n'était pas exprimée, qui est la conscience du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est bien, on a un métier, on est un petit peu le dernier de la classe dans l'immobilier. On pollue, on fait du bruit, on consomme du carbone.
Deuxième émetteur de carbone après le...
Exactement, on a tous les chiffres
après les voitures.
Voilà. Donc on s'est dit, est-ce que, quitte à avoir un impact, autant faire en sorte que cet impact soit positif. Et on a choisi deux axes. Un axe qui est l'axe de l'amélioration de l'impact sociétal et un axe qui est l'amélioration de l'impact environnemental. Et on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Et sur ces sujets, on s'est dit, bah voilà, d'abord en chambre, hein, avec Mathias à deux, puis en association avec notre COMEX, puis avec le CODIR, donc le patron de région, puis avec le management, puis avec l'ensemble des collaborateurs. C'est une démarche qui a été longue, mais qui est une réelle démarche de... On peut parler de démarche de transformation de l'entreprise. C'est un pivot qu'on a fait. Et ce pivot, il a été extrêmement énergivore. Il nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et de la détermination. Pour en arriver, en fait, en 2019, début 2020, à une entreprise qui avait déjà bien commencé à tourner, avec des énergies qui commençaient à être très sérieusement alignées. Et là-dessus, confinement. Confinement, début 2020. Ce confinement nous a tous renvoyés chez nous, gentiment. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce moment-là? On s'est dit, en fait, avec tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pour justifier, montrer au marché tout ce qu'on avait fait? Et bien en fait on s'est aperçu qu'on était éligible au statut Bicorp, au statut d'entreprise à mission et aux deux labels. Et ça a été un travail qu'on a engagé pendant le premier confinement et qui s'est poursuivi pendant des mois.
Alors, donc c'est pour rappeler, ça que je... Oui. On va rappeler à nos auditeurs ce que c'est que Bicorp.
Alors Bicorp c'est une certification qui est mondiale, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes critères qu'on soit Patagonia, Ben & Jerry's aux États-Unis, qu'on soit un promoteur en France ou qu'on soit un producteur de petits pois à l'autre bout du monde. C'est des critères qui sont extrêmement précis, qui touchent à 360 degrés l'impact que peut avoir l'entreprise et qui doit... Et vous êtes noté. Il faut avoir un score pour avoir la certification. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est une démarche qui pousse à s'améliorer, qui pousse à se réinventer, parce qu'au bout de 3 ans, on va être réaudité. Et si on n'a pas progressé, on perd la certification. Donc voilà, c'est assez différent de l'entreprise à mission.
Hein. Est-ce que B Corp vous permet d'obtenir un certain nombre de choses ? Clairement, est-ce que le fait d'être la B Corp sur des appels à projets, c'est un plus ?
Je pense que c'est difficile de trouver un ROI aussi direct.
D'accord.
C'est plus une...
Okay. Mais on vous le dit ?
On nous...
Parce que vous bossez avec des élus locaux, vous bossez avec des... Avec des partenaires professionnels.
Ça colore le positionnement de Redman. Donc c'est effectivement un des éléments du dispositif. Et oui, ça prouve au marché qu'on a cette exigence-là.
Ah oui.
Ça permet aussi, de manière très prosaïque, face à nos concurrents qui sont, pour les plus gros et ceux qu'on retrouve sur les concours, qui ont plus de capitaux, qui ont plus de collaborateurs, on ne peut pas dire qu'ils aient plus de valeur. Mmh. Puisque là, aujourd'hui, prouver les valeurs, prouver l'engagement, aujourd'hui, c'est une façon de prouver que l'on a des engagements et qu'on les tient. Et d'aller se comparer à nos gros
entreprises à mission, c'est quoi le but ? Vous auriez pu vous contenter aussi du label B Corp sans être obligé de basculer entreprise à mission, ou alors c'est une obligation ou pas ?
C'est pas du tout une obligation. Non, ces deux démarches sont complètement distinctes. Et en fait, ça adresse un autre pan de la démarche.
C'est quoi ? C'est une vision du partage ? C'est quoi ?
C'est histoire d'aligner l'ensemble des actions pour que chacune de ces actions soit conduite dans une direction qui est la mission. Et cette mission, on l'a définie, on l'inscrit dans nos statuts. On a travaillé avec l'ensemble des collaborateurs pour définir 10 critères RSE. Ces critères donnent lieu à un intéressement pour l'ensemble des collaborateurs. C'est un intéressement, en fait, ils doublent leur intéressement financier. Donc c'est une façon aussi d'associer l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche-là. L'intéressement financier, doublé si les critères RSE sont respectés, et les collaborateurs ont la capacité d'investir au capital de la holding du groupe l'ensemble de cet intéressement.
Vous laissez la possibilité à vos collaborateurs d'être acteurs et actionnaires du groupe.
Et avec un abondement qui est de l'ordre de 40%.
Donc, et vous avez une vision assez collective, intéressante. Hein.
On ne trouve
pas souvent de patrons qui... On l'approche du capital de cette façon-là. Intéressant.
Oui, et nous, on l'a, et parce qu'on pense que...
Pourquoi ?
Les collaborateurs produisent, les collaborateurs participent à la création de valeur, et nous, on est contents de leur...
Donc pour vous, le collaborateur qui participe à la création de valeur, j'essaie de préciser, on est un peu propriétaire.
Peut en être un propriétaire.
Au-delà de la rémunération, vous estimez que cette valeur que vous avez crue, avec vos collaborateurs, vous la partagez.
Exactement. Et nous, enrichir nos collaborateurs, ça nous fait plaisir.
Bah moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je trouve ça super.
Si.
Non, mais franchement, mais top niveau. Je le dis à nos auditeurs. Il ne faut pas se tromper. Le monde, il a changé. On ne veut plus les jeunes aujourd'hui. Et je suis sûr que quand vous les embauchez, ils préfèrent aller bosser chez Redman. Peut-être même avec une REM un peu inférieure, mais avoir plus de sens à vouloir bosser pour vous. Parce que si on veut créer cet attachement et pas avoir le mercato dans sa boîte ou avoir des mercenaires, c'est comme ça qu'il faut procéder. Chapeau.
Merci.
Franchement, non mais je vous le dis parce que c'est important et vous êtes vraiment pas nombreux hein, sur ce marché. Pourquoi fondamentalement, Nicolas, vous, à titre perso, ça a bien marché pour vous ? Vous avez monté une boîte à partir de rien. Elle a une belle valeur, Redman, aujourd'hui. Vous auriez pu vous contenter finalement, à la limite, grosse augmentation de capital. Je vends ma boîte et je vais à la pêche, hein, ou à Cannes, éventuellement. Je vous taquine un peu, mais pourquoi vous estimez ? Est-ce que vous avez une histoire personnelle qui vous amène à le faire ? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez aux gens de cette façon-là ?
Il me semble que c'est plus une histoire de conviction personnelle que d'une trajectoire professionnelle. Ça, je pense qu'on est totalement aligné avec Mathias sur ce point-là. C'est que... Il nous semble cohérent, il nous semble juste... d'avancer sur ce chemin-là. Il faut dire aussi, de manière très prosaïque, que nous, on se considère plus comme un acteur économique que comme un promoteur. On est promoteur pur et dur. On fait de la promotion immobilière. Notre métier, c'est la promotion immobilière.
Pour autant,
ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un acteur économique. Un acteur économique, c'est un acteur qui participe au développement de la société.
C'est un acte de citoyenneté.
Et si cet acteur économique prend ses responsabilités et va vers la défense ou la protection du bien commun, il faut aller vers ces démarches-là. De manière assez prosaïque, il faut dire, c'est que si on ne fait pas ce travail-là aujourd'hui, le contexte réglementaire légal qui arrive, eh bien, on va le prendre dans les dents.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'aime beaucoup ce que vous faites, hein, c'est clair, vous l'aurez compris, mais on pourrait dire qu'il y a une espèce d'opportunisme en disant, de toute façon, le monde va changer, j'ai intérêt à me mettre au vert, sans faire de mauvais jeu de mots, et de dire, de toute façon, vous le savez, dans les appels à projets publics, il n'y a rien si vous ne mettez pas de la RSE, si vous ne mettez pas une dimension X ou Y. Je me souviens d'un dossier qui a été remporté par la compagnie de Passebourg, qui est sur l'hôtel de la Bûcherie. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, l'hôtel de la Bûcherie. Moi, j'ai trouvé assez remarquable, moi j'aime beaucoup Philippe Journeau, qu'il ait emporté ce projet par une idée incroyable de créer ce qu'on appelle un philanthrolab. Bon, franchement, je trouve ça super d'avoir cette idée, mais si elle devient pérenne, elle crée quelque chose. Parce que vous le savez aussi, c'est-à-dire qu'on a cette image du promoteur financier avec LBO sur LBO, cession de capital. On a vu la cession de Marignan à neuf années d'EBITDA, soit plus de 400 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, je crois que c'est le promoteur le plus cher qui a été vendu dans l'histoire. Enfin, je crois. J'ai croisé Jean-Philippe Bourgas, son ex-président, il y a pas longtemps. Vous auriez pu vous contenter de ça. Non. Ça vous convient pas, vous mettez du sens dans tout ça. Ça vous fait faire des affaires, certes, il n'y a pas d'opposition. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait de gagner de l'argent, concrètement. Vous gagnez de l'argent, mais vous réattribuez une partie de cette valeur et cette richesse autrement, on peut le dire.
C'est vraiment c'est pour ça qu'on est entreprise à mission. Il nous semble qu'on a une mission. Cette mission, c'est d'aller explorer des terrains qui sont ceux que l'on va affronter dans quelques années. Donc, il nous semble que aujourd'hui, il y a besoin d'explorateurs. Voilà. Donc, on l'est. Oui, effectivement, c'est une prise de risque. Non, ça ne nous empêche pas de faire du business. Bien au contraire.
Et de gagner de l'argent.
On n'est pas, une ONG.
Vous êtes prospère.
On gagne de l'argent. On est là pour gagner de l'argent.
C'est
on
bien
le
de
fait
dire.
Avec du sens.
Super.
Et pour autant, on est en train de préparer ce qui va nous arriver. Et je pense que toutes les structures, que ce soit les structures de promotion ou les entreprises qui sont détenues par
des
actionnaires. Non, mais des actionnaires indépendants. Ont ce devoir, parce qu'il faut montrer le chemin. Et je pense qu'il faut le faire. Et le fait d'être associé aujourd'hui, le capital de Redman, il n'y a pas de secret, il est Mathias Navarro, Nicolas Ponson et les collaborateurs.
Est-ce que ça veut dire que demain, Redman ne sera pas vendu à un fonds d'investissement?
C'est pas l'ordre du jour, je ne peux pas répondre aujourd'hui.
Un peu la question piège. Mais alors,
non, c'est pas une question piège. Aujourd'hui, nous, on a une mission.
En fait, tant que Mathias et vous êtes présents, ça n'arrivera pas. Pour les collaborateurs, l'état d'esprit va régner. On est d'accord là-dessus. Ouais, les métiers de Redman, alors vous êtes pas uniquement promoteur, vous êtes aussi promoteur de base, mais ce que j'ai bien aimé dans votre façon de faire, et c'est vrai que j'ai vu quelques projets, c'est que vous avez une vision ensemblière. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas à un plan de promotion, vous n'arrêtez pas à un terrain, vous avez une vision globale. J'aimerais pourquoi vous intégrez toujours, effectivement, quelle est cette vision que vous avez finalement, parce qu'on a l'impression que vous intégrez le métier de promoteur immobilier, mais que vous êtes même sur plusieurs lignes de métier.
En fait, notre façon d'appréhender la promotion immobilière, c'est un bâtiment, c'est pas une fin en soi. Un bâtiment pour un bâtiment, pour moi, n'a absolument aucun intérêt. Un bâtiment n'a d'intérêt et n'a de sens que s'il héberge un projet, un lieu, des moments, des gens, qui ont, eux, une vie qui doit être en cohérence avec ce que eux veulent vivre. Si c'est un projet d'entreprise, on va travailler avec l'entreprise, comprendre son modèle économique, comprendre ses besoins et les traduire en besoins immobiliers et après bâtir l'actif. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas se permettre de construire un actif ex nihilo. C'est systématiquement le creuset d'un projet.
Donc vous avez une vision un peu sociologique, entre guillemets, à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'habitat, avec aussi une fonction, je suppose que vous intégrez, de mixité d'usage, de mixité d'utilisation, fonctionnelle. De réversibilité, parce que je sais que vous êtes plutôt branché aussi là-dessus. La transformation, ça vous plaît bien, hein ?
On travaille beaucoup sur la transformation, effectivement.
La station F, c'est un projet remarquable.
C'est la transformation. On a dû développer environ 320 ou 340, je ne sais plus exactement, 1000 mètres carrés de restructuration, rénovation lourde, parce que c'est la meilleure façon de ne pas polluer, de ne pas produire du carbone, c'est de ne pas démolir pour reconstruire.
Bien sûr.
Après, le travail sur l'usage, évidemment, mais je vais vous donner juste un petit exemple. On a fait beaucoup d'hôtels. On a travaillé beaucoup sur l'hôtellerie. Aujourd'hui, on a notre structure d'exploitation hôtelière. Et le fait de travailler sur l'hôtellerie, c'est aller dans un univers dans lequel vous ne pouvez pas plus prendre soin de l'utilisateur final. Vous l'accueillez le lieu, vous le faites dîner, vous le faites dormir, vous le faites prendre son petit-déj et il s'en va. Quelle autre classe d'actifs prend plus soin de l'utilisateur final ? Et en fait, le fait d'avoir travaillé beaucoup sur l'hôtellerie et d'être allé même vers la structure d'exploitation hôtelière, ça irrigue un petit peu tous les types de projets qu'on regarde avec cette notion du prendre soin.
L'explosion exponentielle du co-living part tout à fait de ce concept-là, de la maîtrise des usages. Je pense que ça mérite un portrait plus long, hein, Nicolas Ponson. On prend rendez-vous. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'appeler vos proches. Voilà, vos amis proches, et de savoir qui vous êtes, qui est l'homme qui a créé Redman. Voilà, vos goûts musicaux, ce que vous aimez, etc. Vous acceptez l'idée, le pari ?
J'accepte.
Un portrait un peu perso pour connaître un Nicolas Ponson plutôt de l'intérieur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette singularité, moi qui rencontre beaucoup de professionnels au quotidien, je peux vous dire, changez rien, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle le contemporain. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. On va rappeler le site internet de Redman, www.redman.fr, tout simplement, où on peut voir sur votre site internet tout ce que vous faites au quotidien. Un petit clin d'œil à Sophie Rousseau, que j'ai le plaisir de retrouver il y a 15 jours au Speed Dating 8e édition à la Maison de la Chimie à Paris. Nicolas Ponson, merci. Comme d'habitude, vous récupérez le podcast, parce que je sais que vous aimez Radio Immo, bien évidemment, et on se revoit très vite.
Merci beaucoup, à bientôt.
MIPIM 2021, Time to Reconnect. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.